Espace, horizon inaccessible. Une émission présentée par Jean-Jacques Ibos chaque mois sur un aspect de la conquête de l'air et de l'espace. Aujourd'hui, épisode numéro 20.
Reprenons maintenant le cours de cette émission, en commençant par un secteur où les satellites ont apporté un apport précieux aux scientifiques, l'astronomie. Des détecteurs embarqués dans des fusées-sondes ont découvert les rayons X en 1962. L'espace offre un champ d'observation parfait au-dessus de l'atmosphère terrestre, grand ennemi des astronomes, car il perturbe les observations du ciel. Le premier satellite dédié à ces observations extra-atmosphériques a été OAO-2 en 1968. En 1988, est lancé COBE, Cosmic Background Explorer, qui va cartographier le fond diffus cosmologique en mesurant la température du rayonnement résiduel issu du Big Bang il y a 13,8 milliards d'années, température à moins 270,25 degrés Kelvin, et y découvrir une légère hétérogénéité de 1 dix millième de valeur relative. Cette différence serait à l'origine de la création des atomes, des étoiles, des galaxies, de tout notre univers. Cette recherche d'un bruit de fond fait suite à cette découverte fortuite en 1964 par deux ingénieurs des laboratoires Bell. Ils cherchaient pourquoi les réceptions avaient toujours une perturbation sur une longueur d'onde précise, quelle que soit la direction des récepteurs. Cette découverte du premier signal radio émis par le cosmos naissant, 380 000 ans après le Big Bang, vaudra un prix Nobel à Robert Wilson et Arnaud Penzias en 1978. Et un autre prix Nobel sera attribué en 2006 à J.C. Mather et J.F. Smoltz, les ingénieurs ayant mis au point deux des instruments embarqués sur COBE. COBE sera suivi le 10 novembre 1995 par ISO, Infrared Space Observatory, de l'ESA, donc l'agence européenne, lancé par une Ariane 44 PP, qui est une Ariane 4 avec 4 boosters d'appui à poudre. ISO a analysé les atmosphères de Jupiter et de Saturne, ainsi que les traînées cosmétaires. ISO est resté opérationnel jusqu'au 16 mai 1998, soit 30 mois au lieu des 18 mois prévus. ISO fait des mesures dans l'infrarouge, mais on a d'autres satellites qui en font dans d'autres rayons. Rosette les fait en rayon X, GEGRO en rayon gamma, SO dans l'ultraviolet, et Sinus X1 découvre en 1971 le premier trou noir. Il y a bien d'autres choses que les satellites font. SO, lui, est lancé en novembre 1995 et s'installe au point de Lagrange L1 pour analyser la composition du Soleil, mesurer ses éruptions, en sonder l'intérieur et étudier le vent solaire. Une erreur humaine ayant envoyé un ordre inapproprié à SO, ses panneaux solaires se sont mal orientés, le privant d'électricité. Heureusement, ceci a pu être corrigé avant d'être catastrophique et la mission s'est poursuivie. En 2019, SOHO a montré que l'atmosphère terrestre s'étend bien au-delà de la Terre. La sonde a mesuré la présence d'atomes d'hydrogène jusqu'à 630 000 km de la surface terrestre. C'est-à-dire que la Lune, à 400 000 km en moyenne, est encore baignée dans un flux de l'atmosphère terrestre, certes très ténu. Le télescope Hubble, du nom de l'astronome américain qui démontra en 1929 l'éloignement mutuel des galaxies, confirmant l'hypothèse émise 7 ans plus tôt par le mathématicien russe Alexandre Friedman, est lancé en 1989. Pesant 11 tonnes, il est équipé d'un miroir de 2,40 m qui offre la même résolution qu'un télescope terrestre de 10 mètres. Il est positionné à 600 km d'altitude, d'où il donne de fantastiques images de notre univers, surtout après les 4 réparations amenées par les navettes spatiales américaines, car au début de sa durée de vie, il était myope. Il a permis aux astronomes de remonter toujours plus loin dans le temps, jusqu'à 12,5 milliards d'années, au moment où les premières galaxies se sont créées dans les nuages de poussière d'origine. Il peut distinguer 3000 galaxies par champ d'une minute d'angle au carré. Le coût total du programme est estimé à 6 milliards de dollars. Mais les découvertes faites par Hubble, étude des étoiles des galaxies proches, recherche de quasars, mesure du mouvement des étoiles et des nuages de gaz, découverte de trous noirs supermassifs au sein de galaxies, découverte de pouponnières d'étoiles, observation de supernovas, des explosions d'étoiles en fin de vie, confirmation de la présence de naines brunes, des corps entre planètes et étoiles, observation de disques de matière s'agglomérant en système solaire dans les pouponnières d'étoiles, collision de galaxies, confirmation de la présence d'hélium dans le tout début du Big Bang, tout cela, toutes ces découvertes valent très largement ces dépenses. Plusieurs incidents, panne de gyroscope, problèmes informatiques, ont perturbé le fonctionnement de Hubble ces deux dernières années. Mais des solutions ont pu être apportées à chaque fois. Et il continue à nous fournir de merveilleuses images. Hipparcos a été lancé le 8 août 1989. Malgré un problème de son moteur d'apogée qui l'empêchera de se placer sur une orbite géostationnaire, il accomplira sa mission pendant 37 mois, mesurant les distances et les mouvements de 118 000 astres. Son successeur, Gaïa, lancé en 2013, a cartographié la position de 1,8 milliard d'étoiles et la distance entre elles de 1,35 milliard. Ce qui a permis en avril 2018 à l'ESA de dévoiler une très complète carte du ciel en 3D. Cette analyse a permis de recalculer la masse de notre galaxie à partir de la vitesse propre des amas globulaires, ce qui donne 1,7 10 puissance 12 fois la masse du Soleil. Gaïa a montré aussi que les étoiles se déplacent d'un amas à un autre en formant des ponts d'étoiles entre différents points de la galaxie. La résolution des images de Gaïa est telle qu'elle pourrait voir depuis Paris un cheveu posé à Marseille. L'énorme masse de données fournies par Gaïa, 50 gigaoctets par jour, est analysée par les 20 pays membres européens d'un consortium de traitement des données, l'antenne française étant située au CNES à Toulouse. Le 10 décembre 1999, l'ESA lance avec une Ariane 5 le télescope X-ray Multimirror, dénommé XMM Newton, de près de 4 tonnes, observant l'univers dans le rayonnement X. D'une durée de vie opérationnelle prévue de 2 ans, Newton est encore en activité, avec une date de fin de mission prévue à fin 2025. L'observatoire spatial Smith, lancé le 20 novembre 2004, est équipé de 3 télescopes, un d'alerte, un en rayons X, le dernier en UV, avec comme mission la chasse aux sursauts gamma. Le 1er juin 2008, la NASA a mis sur orbite GLAST, Gamma Ray Area Space Telescope, pour observer lui aussi les sursauts gamma. Télescope développé en coopération entre la NASA et plusieurs laboratoires en Europe et au Japon. En avril 2019, les astronomes ont révélé avoir réalisé la première photo de l'environnement immédiat d'un trou noir de 6,5 milliards de masses solaires, prise au centre de la galaxie M8 dans la constellation de la Vierge à 54 millions d'années-lumière. 8 télescopes ont été mobilisés pour faire cette image. Le 13 juillet 2019, la Russie a lancé son télescope à rayons X Spectre RG qui est allé se placer le 21 octobre au point de Lagrange L2 du système solaire à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Et voyons maintenant la star de l'année 2022, le nouveau télescope de la NASA JWST, le James Webb Space Telescope, du nom du premier administrateur de la NASA. Ce projet, lancé en 1989, a été développé en coopération entre la NASA et les agences européennes et canadiennes depuis 1998, avec un budget prévisionnel de 500 millions de dollars. Il sera placé lui aussi à un point de Lagrange L2, à 1,5 million de kilomètres de la Terre, et étudié pour être opérationnel jusqu'en 2027. Avec son miroir principal de 25 mètres carrés, contre 4 mètres carrés pour Hubble, il améliorera d'un facteur 10 la vitesse de collecte d'images par rapport à Hubble, autorisant des images de plus en plus fines, faisant découvrir des galaxies de plus en plus lointaines, étudiera la formation et l'évolution de galaxies, celle des systèmes solaires, le cycle de vie des étoiles, de leur naissance à leur mort, la composition des atmosphères de ces exoplanètes. Tout cela pour un coût, au final, de près de 10 milliards de dollars. Il embarque une caméra dans l'infrarouge conçue par le CEA à Saclay, un imageur infrarouge, une caméra multifonction, grand champ, spectromètre et coronographe. Son miroir a été plié pour rentrer ses 6,5 mètres de diamètre dans les 4,5 mètres de la coiffe d'Ariane 5. Et il se dépliera façon origami. De même que pour le bouclier thermique de 22 mètres d'envergure et dont les 6 couches font 8 mètres d'épaisseur équipés de panneaux solaires qui font eux 6 mètres de long. Il devait être lancé en octobre 2018 par une fusée Ariane 5, mais en mars 2018, le lancement a été reporté à juin 2019, puis à mai 2020, où un incident a été découvert lors d'essais faits par le constructeur. Des vis et des rondelles ont été retrouvées dans la salle de test. D'autres ennuis se sont fait jour. Déchirement du bouclier thermique, transducteur mal alimenté, propulseur endommagé par un solvant. Un autre problème, découvert sur des composants nécessaires à la transmission de données, a entraîné un report du lancement. Et enfin, la crise sanitaire liée au Covid-19 a décollé le lancement au 31 octobre 2021. Mais en juin 2021, les travaux sur le télescope étant terminés, il est passé en phase de test et son décollage depuis Kourou, emporté par une Ariane 5, était prévu pour le 18 décembre 2021. Mais le 22 novembre, la NASA a annoncé un report du tir au 22 décembre, un collier de serrage ayant cassé, ce qui a entraîné de nouvelles vérifications. Enfin, le 25 décembre 2021, la fusée Ariane 5 a offert un beau cadeau de Noël à la NASA et à tous les astronomes, la mise sur sa trajectoire de JWST, avec en prime une image du télescope se séparant de sa coiffe. Quelques jours après le décollage, l'ESA a annoncé qu'en raison de la parfaite trajectoire donnée au télescope par Ariane 5, sa durée de vie opérationnelle pourrait atteindre 10 ans au lieu de 5 ans contractuels. Puis le télescope a déplié le bouclier thermique qui protège les équipements, qui doit fonctionner à moins de 133 degrés Celsius, alors que la face exposée à la chaleur du soleil sera, elle, à 85 degrés Celsius, et a enfin déployé son miroir secondaire le 5 janvier, puis le miroir principal entre le 7 et le 8 janvier. Le télescope est maintenant en route vers son poste d'observation. Les programmes spatiaux demandant des années de préparation, le successeur du télescope James Webb est déjà dans les projets de la NASA. Il s'agit de WFIRST, Wide Field Infrared Survey Telescope, augmentant d'un facteur 100 le champ qu'offre Hubble. Mais début 2018, l'administration américaine de Trump avait annoncé à la NASA son intention d'arrêter le financement de ce télescope. La Société américaine d'astronomie s'est alors élevée contre cette décision qui ferait perdre aux États-Unis leur leadership dans la recherche astronomique. Et la NASA a finalement donné son feu vert à ce projet de 3 milliards de dollars qui partira en 2025. Un scientifique anglais plaide pour l'installation d'un télescope sur la face cachée de la Lune. Protégé de tout rayonnement d'origine terrestre, il pourrait détecter des signaux faibles émis au moment du Big Bang. Opinion partagée par la communauté scientifique française qui s'inquiète aussi des multiples émissions de radars et des antennes de téléphonie mobile. Inquiétude augmentée par le contrat que vient de passer la NASA à Nokia pour équiper la Lune d'un réseau 4G. Plus près de nous, la sonde Parker Solar Probe, lancée le 12 août 2018 par une fusée Delta IV Heavy, va s'approcher au plus près du Soleil. Son nom est celui d'un physicien américain, Eugene Parker, qui a travaillé sur les phénomènes solaires, prédisant en 1950 l'existence des vents solaires, hypothèse jugée farfelue à l'époque. C'est Luna 1 qui détectera ces vents le 2 janvier 1959. Eugene Parker a 91 ans au moment du lancement. Et c'est à signaler, car il est rare que l'on donne le nom d'un projet aussi grandiose à une personne toujours en vie. La sonde va chercher à comprendre pourquoi la couronne solaire est 180 fois plus chaude que la surface, respectivement 1 million de degrés et 5500 degrés Celsius. Et aussi mesurer le champ magnétique, chercher comment sont générés les vents solaires, ces gigantesques colonnes qui envoient chaque seconde dans l'espace 1 million de tonnes de plasma, un flot de particules solaires voyageant en deux composantes, l'une lente à 200 km par seconde, l'autre rapide à 400 km par seconde. Elle provoque sur Terre de magnifiques aurores boréales, mais sont aussi responsables de perturbations électromagnétiques malgré la magnétosphère qui nous protège de ces rayonnements. L'une de ces manifestations a engendré une coupure de courant dans tout le nord canadien en mars 1989, une autre en 2015 a brouillé les radars en Suède, clouant les avions au sol. Elle crée aussi des problèmes dans les transmissions entre les satellites et les stations au sol, ce qui a été le cas en 2003. La sonde est protégée des 1400 degrés Celsius dus au Soleil par un bouclier en carbone de 11 cm d'épaisseur, alors que le côté opposé, exposé au vide spatial, doit être réchauffé, la température y faisant entre moins 150 et moins 200 degrés Celsius. Et il est impossible de déployer des panneaux solaires qui ne résisteraient pas au feu solaire. Cette sonde de 1,5 milliard de dollars a débuté ses orbites elliptiques autour du Soleil le 29 octobre 2018, passant à 42,9 millions de kilomètres du Soleil à la vitesse de 343 000 km/h, puis est passée à 8,5 millions de kilomètres le 6 novembre 2021. La mission doit durer 7 ans, pendant lesquels la sonde va faire 24 autres orbites autour du Soleil, se rapprochant à chaque orbite, la dernière l'amenant à environ 6,2 millions de kilomètres, ou 38 rayons solaires, soit la distance la plus proche jamais atteinte par un objet terrestre, et ce en décembre 2024. Sa vitesse sera alors de 700 000 km par heure, soit 195 km par seconde. En juin 2020, la sonde a envoyé une photo du système solaire avec 6 de ses 8 planètes sur ce cliché. Cette sonde américaine sera précédée sur place en 2023 d'une sonde européenne, Solar Orbiter, qui est partie le 9 février 2020, mais elle restera, elle, à 60 rayons solaires. Elle filmera le Soleil avec une résolution de 200 km seulement. Tournant autour du Soleil dans le plan de l'équateur dans un premier temps, elle se replacera au bout de 5 ans pour aller photographier à haute résolution les pôles, ce qui n'a pas encore été fait, les sondes étant jusqu'à maintenant toujours restées dans le plan de l'équateur, là où tournent les planètes. En juin 2021, la sonde a enregistré sa première éruption solaire à une distance de seulement 77 millions de kilomètres. Je rappelle que le Soleil est à 150 millions de kilomètres de la Terre. Elle est passée le 27 novembre 2021 à seulement 460 km de la Terre afin de bénéficier de l'assistance gravitationnelle de notre planète. Mais en prenant le risque d'être percutée par un des débris qui pullulent sur cette orbite, ainsi que sur l'orbite géostationnaire à 36 000 km qu'elle a elle aussi croisée. Dans la prochaine émission, nous verrons les autres applications des satellites.
C'était Espace Horizon Inaccessible, numéro 20. Une émission présentée chaque mois par Jean-Jacques Ibos sur un aspect de la conquête de l'air et de l'espace.